Je suis au Hellfest avec le groupe Jinx. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par le plus simple, petite présentation du groupe et un peu la présentation du style.
Jinx, on s'est formé en 2003-2004. On a sorti un premier maxi, on fait du metal indus, c'est-à-dire un metal avec pas mal de machines et de samples autour. On a sorti donc un premier maxi, après on a sorti un premier album chez Massacre Records. Et là on sort depuis mai l'album chez Clonosphère et Season of Mist qui s'appelle Enuma Elish, donc qui est dans les bacs depuis peu.
Concept album ?
Oui, concept album en fait. Au départ, on était parti sur. Moi, j'étais parti sur les textes sur tout ce qui était la théorie du complot. Donc, essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait avec des reportages comme Zeitgeist ou des livres de David Icke ou autres. Et après, ça a très vite dévié sur les origines de l'humanité. Donc, avec un auteur français qui s'appelle Anton Parks, qui a sorti une trilogie qui s'appelle Les Chroniques de Girku. Ça a été super intéressant et on a essayé de retracer un petit peu la théorie de l'exogénèse avec tout ce que ça peut comporter de mystique et toute l'interprétation qu'il y a eu à travers les différentes religions. Et après, ça a dérivé sur, c'est arrivé jusqu'à quelque chose d'actuel avec de nos jours, ce qui peut se passer et les influences que peuvent avoir certaines personnes sur la réalité que l'on vit tous les jours. Quoi.
Au niveau de la création de la musique et des textes, ça se passe comment ? Tout le monde tous ensemble, un peu de répète ou il y en a un qui fait tout ?
Alors en fait, après la création du premier album, on a fait une bande originale d'un film qui s'appelle The Call of Cthulhu. Donc on a fait une bande son pour ce film qu'on joue live. Et donc il y a eu un nouveau membre qui est arrivé qui s'appelle Link, qui s'occupe de toutes les machines, les samples et tout ce qu'il y a autour. Et donc c'est devenu un instrument à part entière. Avant c'était moi qui m'en occupais pour les deux précédents CD. Et là ça a pris une toute autre dimension et on est rentré dans un processus créatif qui était vraiment où tout le monde s'investissait dedans. Donc ça a été vraiment assez long pour pouvoir le faire cet album, parce qu'il y a pratiquement eu 5 ans entre le premier album et le deuxième. Mais on a vraiment voulu faire quelque chose d'abouti, qui ne se répétait pas, essayer de prendre acte de tout ce qui a été ressorti du premier album au niveau de la répétitivité, la linéarité au niveau des tempos et au niveau du chant. Et on a énormément travaillé. Et au niveau de la compo, tout le monde s'y met. Après, il n'y a pas de recette, entre guillemets. Ça va partir d'un riff guitare, aussi bien d'un pattern batterie ou d'une ligne de sample. Et après, on essaie de broder quelque chose autour et de construire un univers. Et après, le chant vient se poser dessus naturellement. Quoi. Voilà.
Enregistrement et mix, justement, au Link Studio et mastering Globe Audio. Le choix de pas faire tout au même endroit ou...
Alors en fait, comme on a tout enregistré nous-mêmes, c'est Link qui a tout enregistré et qui a tout mixé, donc arrivé à un certain stade du mix, puisque il a fait partie de tout au niveau de la composition, au niveau de l'enregistrement et du mix, au niveau du mastering, on avait d'abord pas le matériel suffisant pour pouvoir donner ce vernis et ce lissage qui pouvait donner une uniformité aux titres, qui sont assez différents les uns par rapport aux autres. Et donc on a essayé de chercher un studio qui pouvait faire des choses, d'abord qui pouvait faire quelque chose de correct au niveau du métal, sans pour autant pousser dans ce que l'on peut entendre avec beaucoup de grosses caisses, beaucoup de basses et quelque chose de très incisif. Le précédent album on l'avait fait avec Jean-Pierre Bouquet, et c'est vrai qu'on avait une connotation très très métal, et avec l'arrivée de cette grosse masse de samples qu'on n'avait pas sur le premier album, il a fallu essayer de traiter les choses différemment. Et Globe Audio et Alexis a vraiment compris ce qu'on voulait faire, et même il y a eu des modifications pour le mastering. On a travaillé le mix pendant le mix avec le mastering pour pouvoir faire quelque chose qui soit vraiment cohérent, quoi. Pas arriver en mastering avec quelque chose de très compressé et qui ait plus du tout de place pour justement unifier tout ça, quoi.
Un petit mot sur quelques titres en particulier. Le titre qui s'appelle RFID, déjà.
Ah, c'est un titre assez spécial parce que d'abord c'est le plus court, hein, il fait un peu moins de 2 minutes. Et ça parle des puces RFID qu'on implante. Il y a deux parties dans l'album, une partie qui est sur l'origine de l'humanité, avec le fondement des religions et la création de l'homme et comment ça a évolué. Et il y a toute une autre partie avec les masses médias et puis comment on arrive à être contrôlé dans notre vie de tous les jours et essayer un peu de se libérer de ce joug que l'on a au quotidien. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment des reportages que j'ai vus sur des puces que l'on implantait par exemple dans des boîtes de nuit en Espagne qui permettaient de payer, ou alors des Américains qui font ça à leurs enfants pour pouvoir les traquer et savoir où ils sont à telle heure de la journée. Et les applications que ça a actuellement, que l'on retrouve un peu partout dans tous les devices qu'on a sur nous, les téléphones portables aussi bien que, enfin, partout quoi. Et donc c'était un petit peu faire prendre conscience à la chaîne qu'on se met au pied et qu'on autorise, enfin implicitement, à travers la technologie moderne quoi. Voilà.
Même chose avec le titre The Loss.
Alors The Loss, c'est la deuxième partie justement de l'album qui correspond au personnage principal qui est Enki Ea, qui est un dieu sumérien et qui dans les chroniques de Girku est celui qui a en gros participé à la fondation de l'humanité, à les manipulations génétiques qu'il y a eu pour pouvoir le créer et The Loss, c'est justement la perte d'un être cher. Et c'était assez dur à traduire en texte d'ailleurs, l'épisode qu'il y a dans les chroniques de Girku, arriver à pouvoir condenser plusieurs passages qui parlent de la perte de quelqu'un sans pour autant tomber dans le slow ou quelque chose de voilà. Donc bon, on était content parce qu'on est arrivé à faire quelque chose d'assez noir, et c'est parti d'un pattern batterie, ce morceau justement du batteur, qui était vraiment assez tourné un peu bancal. Et les machines qui se sont collées dessus, et tout est venu assez naturellement.
Est-ce qu'il y a un titre que tu apprécies particulièrement de jouer en concert? Parce que tous les titres sont forcément bons puisqu'ils sont sur l'album, mais un qui, toi, il y a une petite partie dans un morceau qui te touche ou que t'aimes parce que le public réagit à chaque fois?
Alors, y en a plusieurs, parce qu'en fait, sur cet album, tous ces titres vraiment sont vraiment symboliques pour nous. Il y a Nibiru qui est vraiment quelque chose de spécial, puis ça commence machine et chant pendant un bon moment, et il y a un peu tout le panel vocal, mais là je parle personnellement parce que je fais le chant, donc voilà, mais ça passe de la voix d'ess, la voix claire à la voix d'ess, puis après ça passe sur du chanté et puis du braillé, donc il y a vraiment un peu tout, et c'est un peu le challenge parce qu'il est un peu rude à retranscrire sur scène. Et sinon The Flood qui est par rapport à la réaction des gens, où ça part à fond quoi, voilà. C'est agréable à chanter.
L'artwork, un mot là-dessus, parce que voilà, il est quand même un peu travaillé.
Alors l'artwork, une petite histoire derrière, où on avait commencé à travailler avec un graphiste, et en fait ça a duré un petit moment et on n'arrivait toujours pas à trouver le lien justement entre ce côté, cette ambivalence sur l'album entre le côté moderne et le côté ancien, avec le côté sumérien qui fait le berceau de l'humanité. Donc arriver à faire un lien entre les deux, c'était un peu rude. Et à un moment donné, on n'arrivait plus, on voyait plus du tout comment symboliser tous ces sujets qui sont abordés. Et on a contacté Eric de Panavière, qui a fait notre artwork depuis le début et qui, depuis Fuseless, avait arrêté de faire des artworks complètement. Il s'était concentré sur faire des meubles design. Voilà, c'est plus du tout dans la même branche. Il fait d'accord d'ailleurs tout notre déco de scène. Il nous a fait un pied micro, pied clavier, tout ça. Et donc il a relevé le challenge et ça s'est fait en 3 semaines, 1 mois. On a bossé comme des tarés dessus et on a amassé un gros pacasse d'imagerie qu'on était vraiment fan. Et on a travaillé aussi avec un photographe qui s'appelle Max Dubois, MXBX. Les deux concentrés, en fait, ça a donné l'artwork qu'il y a là, et où ça casse un petit peu les codes de ce qu'on voit d'habitude. Ce qu'on voulait faire, ce qu'on nous disait, il faut faire quelque chose d'assez uni, tu choisis une couleur, tu fais l'intérieur par rapport à l'extérieur, surtout les CD, tu fais un petit dégradé, mais pas. Et nous, on voulait quelque chose de froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur, et c'est vrai qu'on le voit pas forcément sur beaucoup d'albums. Et là, il a compris ce qu'on voulait, et puis on était super contents, quoi. Voilà. Mais ça s'est fait vraiment intensément et sur un bref laps de temps. Ouais.
Un mot sur l'ambiance du Hellfest, parce qu'on est samedi, en milieu d'après-midi.
Eh bien écoute, on est arrivé, il était 14h, donc on a couru un petit peu partout. Donc là, c'est super, c'est vraiment assez incroyable de voir ça en France. Et c'est génial de voir comment ça répond et comment les gens sont heureux, quoi. La bonne ambiance qu'il y a là-dedans, c'est vraiment génial, quoi. Okay, merci. Voilà. Ouais, pas de quoi, merci à toi.